Bonsoir à toutes et à tous. Je vous prie d'excuser l'absence de notre directeur de l'espace Mendès France, Didier Moreau, qui est retenu par d'autres obligations ce soir. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée sur la place des économistes dans la société, on va dire ça comme ça. Je suis heureux à double titre, d'abord parce que cette soirée se tient dans la poursuite d'une collaboration déjà très ancienne, un partenariat très ancien entre l'espace Mendès France et la faculté de sciences économiques. Les économistes ont été présents dès la création de l'espace Mendès France, il y a plus de 30 ans. Et puis, nous avons toujours eu le souci à l'espace Mendès France de travailler à la fois sur les sciences dites dures, je ne sais pas quel mot trouver, tellement c'est compliqué de faire la distinction, mais vous voyez très bien de quoi il s'agit, et les sciences humaines et sociales. C'est une des particularités de l'espace Mendès France en tant que centre de culture scientifique et technique et industrielle, d'avoir toujours voulu présenter à la fois les résultats de recherche et faire la médiation sur les sciences dures et les sciences humaines et sociales. C'est un pari gagnant, hein, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, toutes les grandes questions de société qui ont un fond technologique, technique, doivent être mises en perspective avec les questions de sciences humaines et sociales. Donc c'est évidemment la bonne place qu'il fallait prendre, et je crois que nous sommes très contents de ce résultat. Alors je disais à double titre, parce que, bien sûr, il ne vous a pas échappé que cet événement se produit ce soir, cette table ronde, dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans de la faculté de sciences économiques. Alors, on est un tout petit peu en décalage parce qu'elle a été créée le 26 janvier 1971. Et donc, le Covid est passé par là. Voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, c'était presque bon parce que 26 janvier, on est le 27, on aurait pu faire l'anniversaire quand même. Mais bon, on va dire que nous sommes quand même dans les temps et il fallait que nous nous retrouvions. Ça y est, c'est fait. Enfin, cet événement peut avoir lieu. Alors, bien sûr, sujet extrêmement sensible. Hein, quand on écoute ce que l'on dit sur les économistes, ce n'est pas toujours très flatteur. On les accuse d'être abscons, hein, d'être trop techniques très souvent. On les accuse parfois, alors là, la critique est très violente, hein, on les accuse d'être plus idéologues que scientifiques. Et puis, on les accuse aussi de ne pas toujours s'occuper des aspects sociaux. Voilà. Alors, évidemment, ils se défendent et ils expliquent qu'il n'y a pas du tout de différence entre cette approche scientifique parce que, et la technicité, parce que aujourd'hui, plus encore qu'hier, nous avons énormément de matières statistiques disponibles, nous avons énormément de ressources pour mener les études. Et évidemment, dans le cadre d'une démarche scientifique, il s'agit de mobiliser ces travaux. La question de l'idéologie, eh bien, je ne veux pas faire d'exposé sur ce sujet, mais ce que disent les économistes en général pour répondre à cette critique, c'est qu'il y a une démarche scientifique qui est discutée, il y a des hypothèses qui sont formulées, il y a des controverses qui existent, et donc la démarche scientifique, elle a lieu normalement avec des tests qui ont lieu régulièrement, des travaux qui sont discutés, des publications qui ne sont effectives que lorsque la communauté est d'accord ou bien lorsque ça apporte quelque chose qui vient verser à la controverse. Et puis cette question de la distance par rapport aux aspects sociaux, eh bien, on voit très bien aussi qu'il y a tout un ensemble de recherches, hein, qui se sont développées sur ces questions de lien entre l'aspect social et l'aspect économique. D'ailleurs, la transaction économique n'est rien d'autre qu'une des modalités du lien social. Et donc, on voit très bien que la controverse est engagée. Et j'espère donc que nous aurons ce soir des apports nouveaux sur ces sujets. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et merci encore d'être venu nous rendre visite. Bonne soirée.
On va démarrer dans un instant, juste avant, sur comment les organisateurs ont imaginé la chose. Je vais dans un premier temps les cuisiner un petit peu. Ils sont là pour ça, ils sont ravis, ils ne savent pas trop ce qui les attend. Et l'idée, c'est bien sûr que ce soit un petit peu interactif avec vous, puisqu'ils sont prêts à répondre à toutes les questions. Il n'y a aucun joker, on n'est pas dans le jeu de la vérité, donc on doit dire toute la vérité. Donc voilà, juste sur la forme, si vous pensez juste à mettre les téléphones en mode vibreur, ça sera parfait. On s'est posé des questions sur le rôle des économistes. Et puis finalement, on a trouvé une petite pépite, une sorte de micro-trottoir, comme on dit dans le jargon, qu'on va découvrir ensemble.
Un économiste, déjà, pour moi, ça sert à résoudre des problèmes.
À essayer de trouver des solutions pour l'environnement, pour les finances, enfin tout ce qui a un rapport avec la société.
Pour que le pays, on va dire, se développe mieux.
Sûrement aux États, aux entreprises aussi, ça peut sûrement servir pour si on construit une entreprise, pour savoir comment gérer l'économie de l'entreprise.
Bah, aider dans les banques, à les conseiller, à ne pas faire d'erreurs.
Peut-être à juger le marché, enfin... Genre le prix, par exemple, des bananes et tout ça, voir combien ils coûtent et s'ils pourraient augmenter.
Que tout l'argent soit géré convenablement pour pas qu'il y ait trop de dépenses.
Et mettre un avis sur l'actualité économique et utiliser les chiffres pour des sondages ou des choses comme ça.
Ils servent à expliquer des choses, des phénomènes par exemple les phénomènes de démographie, de croissance démographique, etc. Ça peut être expliqué par des économistes.
Pouvoir savoir si le pays est en bonne posture et pouvoir situer le pays aussi mondialement.
Ils font par exemple des prévisions sur le chômage, sur le PIB, sur la croissance.
Ils servent à nous expliquer des phénomènes de la vie courante. Bah, par exemple, quand on a des crises, ils étudient et puis ils nous disent, par exemple, comment faire pour résoudre les problèmes.
À comprendre comment on a fonctionné et comment on peut faire pour améliorer ou changer certaines choses pour que ça aille mieux.
Prévenir un peu les prochaines situations, les prochains problèmes qu'il pourrait y avoir ou comment les améliorer.
Peut-être à s'informer sur... les économies futures, à essayer de prévoir l'avenir, les nouvelles choses qui vont arriver.
Ça sert à anticiper des phénomènes économiques pour une entreprise, par exemple, ou je sais pas, une politique peut-être.
À étudier les changements qu'il peut y avoir en fonction des périodes.
Oui, c'est pour faire des comparaisons, regarder s'il y a des évolutions.
Est-ce qu'aujourd'hui notre économie est la même qu'il y a 100 ans ou qu'il y a 50 ans ou pendant... si on est en difficulté ou si on n'est pas en difficulté.
Il peut enseigner des théories et faire partager ces théories.
Par exemple, il y a plusieurs types de politiques, donc ça permet de s'adapter.
Je dirais qu'ils sont là pour aider les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est l'économie, quoi.
Voilà, ça nous pose un petit peu le débat. Christian Aubin, professeur émérite d'économie, Liliane Bonal, professeur d'économie à l'Université de Poitiers, Thierry Gallet, directeur général adjoint de la Mutuelle de Poitiers. Pour se chauffer un petit peu la voix, je vais vous donner juste la parole très rapidement les uns les autres sur ce qu'on vient de voir. Ça vous inspire quoi pour commencer? Il va falloir se prêter le micro. Allez-y.
Je commence?
Oui, allons-y.
Bien, bonsoir. Sur ce qu'on vient d'entendre, ça inspire quoi? Il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, on a entendu beaucoup de choses. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord dans ce qu'on a entendu, puis il y a des choses avec lesquelles je suis relativement d'accord. Ce qui m'a intéressé, ce que j'ai trouvé très positif, c'est la diversité de ce qu'on a entendu. Et je crois qu'effectivement, ça correspond bien au métier de l'économiste, ce qui est un métier très divers. Et puis, j'en profite pour présenter, parce que les gens ne me connaissent peut-être pas tous. Donc, professeur émérite, en fait, ça veut dire que je suis un has-been, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui en retraite.
Mais lucide.
Lucide, j'espère encore, oui. Peut-être pas encore toute la sagesse de l'âge, mais parce que je suis jeune retraité. Et donc, je pense, en participant à ça, je pense quand on m'a demandé de participer, c'est parce qu'effectivement, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu à tous les aspects du métier d'économiste, à la fois comme chercheur, comme enseignant, aussi comme administratif. Et puis même encore aujourd'hui, j'ai gardé un pied dans l'entreprise, puisque je suis aussi administrateur dans une mutuelle d'assurance, que je ne nommerai pas, mais qu'on aura bien l'occasion de nommer à un moment ou à un autre.
Et on viendra vers vous dans un instant pour en savoir un peu plus quand même sur votre parcours.
Oui.
Liliane Bonal, qu'est-ce que vous inspire cette petite vidéo, ce petit micro-trottoir qu'on a regardé ensemble?
Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des mots-clés qui sortent et certains ont bien compris quels étaient les objectifs des économistes, ou en tout cas ont compris certaines idées. Donc moi je suis pas exactement comme Christian, c'est-à-dire que j'ai pas une vision très parfaite de l'économie, dans le sens où moi je fais beaucoup de stats et donc j'aide les économistes à réfléchir à leur modélisation plutôt, mais J'ai aussi l'impression que les étudiants, ou les personnes qui ont parlé ici, sont conscients qu'il est nécessaire d'avoir des données et c'est plutôt une bonne approche.
Merci. Thierry Gallet.
Vous avez le micro.
Bonsoir. Ça marche là?
Oui, oui, ça fonctionne. Allez-y.
Alors, donc, moi, je suis directeur général adjoint d'une mutuelle d'assurance, donc je ne suis pas a priori économiste, même si on est très consommateur d'économie. Moi, ce que m'inspire cette petite vidéo, c'est que l'économiste est difficile à définir. C'est autant facile de définir ce que c'est qu'un médecin, mais là, définir un économiste, il y a beaucoup, beaucoup de définitions, parce que je pense qu'en effet, il y a beaucoup de types d'économie, il y a beaucoup d'économistes. On parle de statisticiens, on parle de politique, on parle d'entreprise, de gouvernance d'entreprise. Donc c'est ça que ça m'inspire, moi, c'est que l'économie, elle est très multiple, il y a une pluralité, et je pense que c'est intéressant justement de voir comment chacun, on peut l'utiliser et on peut s'en servir de cette économie.
Christian, ben, je reviens vers vous pour en savoir un peu plus quand même, on va prendre le temps, on a du temps ce soir, pour juste, si ce n'est pas indiscret, un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé là et votre carrière, pour qu'on en sache un peu plus.
Ça va être long. Bon, je vais quand même passer assez vite. Je suis arrivé là un peu par hasard. Je suis arrivé à l'économie un peu par hasard. Je ne m'intéressais pas spécialement à l'économie après le bac, mais bon, j'avais un bac scientifique. Je cherchais ce que je pouvais faire. J'aimais bien les maths, donc je voulais faire quelque chose où il y ait des maths. Je n'aimais pas la chimie, donc je ne voulais pas aller faire en fac de sciences. Et donc, j'ai atterri en fac de sciences éco. Puis finalement, ça m'a plu. Et donc j'y suis resté et j'ai insisté. Alors qu'après j'ai fait le cursus standard avec le côté recherche, le côté enseignement, en travaillant notamment sur des sujets comme la monnaie, pas mal d'économie monétaire, mais aussi économie internationale, un petit peu de statistiques, mais sans être spécialisé. J'ai utilisé un peu les statistiques, mais par rapport à ce que peut faire Liliane, Donc voilà à peu près. Alors après, quand je disais les tâches multiples, c'est vrai que quand on est enseignant-chercheur dans le cadre universitaire, il y a l'aspect recherche, c'est-à-dire essayer de produire de la connaissance. Mais à côté, il y a aussi tout l'aspect enseignement, donc c'est, je dirais, transmettre les connaissances. Puis il y a aussi toute une partie administrative, parce qu'il faut faire vivre la boutique aussi. Donc il y a des moments où il faut donner. Il faut aussi être capable de s'ouvrir sur l'extérieur, et je dirais que la partie transmission des connaissances en dehors des étudiants, il y a le public étudiant, mais il y a aussi le reste, et donc il m'est arrivé de travailler ici en liaison avec Mendes France pour faire de la diffusion de culture scientifique en économie, donc ça fait partie. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un ensemble de tâches très diverses.
Et vous avez vu, que ce soit sur la recherche ou l'enseignement, les choses évoluer tout au long de cette longue carrière?
Oui, oui, beaucoup.
Allons-y.
D'un côté comme de l'autre, oui. Bah, les thématiques ont évolué. Alors, c'est une question qui m'a été posée quand je suis parti, justement, on m'avait demandé de faire un petit bilan. Un des aspects qui a quand même beaucoup évolué, c'est quand même tout ce qui est lié à la technologie. C'est vrai que j'ai commencé mes premières recherches. On avait des cartes perforées pour faire tourner un ordinateur qui existait sur le campus, parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Aujourd'hui, et cet ordinateur, il avait une puissance qui était moins grande que, je pense, ce qu'on a dans nos smartphones, chacun dans notre poche. Donc, il y a eu, au niveau de la technologie, quelque chose d'énorme, ce qui a permis, effectivement, de brasser beaucoup de données et donc d'enrichir la recherche à travers ça, d'utiliser des logiciels de calcul aussi pour traiter un certain nombre de choses qui sont infaisables à la main. Sans les logiciels de calcul, il y a un certain nombre de modélisations qui sont infaisables. Donc ça a permis d'avoir des progrès dans tous ces domaines-là, à la fois au niveau théorie, recherche fondamentale, et au niveau appliqué. Alors avec les bons côtés et les mauvais côtés, le bon côté, c'est que ça permet effectivement d'explorer des tas de pistes nouvelles, de faire des tas de choses. Le côté un petit peu négatif, c'est quelquefois, on finit par faire des trucs tellement pointus et tellement sophistiqués que... on en perd peut-être une certaine ouverture d'esprit, une certaine vision, et quelquefois on s'attache plus à trouver la dernière sophistication technologique parce que c'est le métier qui fait ça, notamment avec le côté publication. Il faut publier des travaux originaux dans les revues, et quelquefois la façon de trouver l'originalité, c'est d'avoir trouvé la méthode de calcul un peu nouvelle. Le sujet sur lequel on l'applique, on n'a peut-être pas fait progresser beaucoup la science là-dessus. Mais ça fait partie du jeu, je dirais, c'est le revers de la médaille, mais il faut prendre l'ensemble. À côté de ça, il y a quand même beaucoup d'éléments positifs qui ont été liés à tous ces moyens de calcul. Et côté, alors côté enseignement, puisqu'il y a le côté enseignement, alors il y a eu aussi le côté technologique, parce que c'est vrai que la technologie a évolué beaucoup. Je suis arrivé en fac, on avait des étudiants qui savaient compter, faire du calcul mental. Aujourd'hui, un étudiant, faut pas lui demander de faire une division, parce que ça, il ne sait pas faire. S'il n'a pas sa machine à calculer, il est incapable de faire une division. Donc là aussi, l'évolution technologique a des bons aspects parce que ça leur a permis de faire tout un tas de choses, de maîtriser un certain nombre d'informatique, d'éléments informatiques et dans les applications, dans les métiers qu'ils auront après dans la vraie vie quand ils seront sortis de la fac. La maîtrise de l'outil informatique, je crois que c'est quelque chose d'important. Enfin, je pense que Thierry pourrait le dire. Ça fait partie des choses qui sont importantes et que la fac peut leur apporter. Mais à côté de ça, il y a effectivement certaines compétences ou certaines qui peut y avoir autrefois qui se sont émoussées parce qu'on ne peut pas tout faire et que les situations sont comme les autres. Donc il y a une évolution du public étudiant aussi. Mais bon.
J'ai une dernière question personnelle. Qu'est-ce qui faisait que vous vous leviez de bonne humeur le matin? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez 4 heures.
De bonne humeur le matin, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'aimais ça. Alors plus peut-être le côté recherche. C'est toujours ce qui m'a le plus attiré. Mais le côté transmission des connaissances ne me déplaisait pas. Les seules choses qui me faisaient lever de mauvaise humeur, c'est les corrections de copies. Quand on arrivait en période d'examen et que je savais qu'il allait faire passer des examens et corriger les copies, ça. Mais ça, je crois que tous les enseignants sont pareils. Hein. Transmettre les connaissances, ça va. S'assurer qu'elles ont été assimilées, ça, c'est moins drôle.
Ça marche. On vous laisse respirer, Liliane Bonal. Un petit mot maintenant aussi sur votre vie, votre œuvre. Racontez-nous.
Alors, moi, elle est peut-être un petit peu moins dense que celle de Christian, mais moi, j'ai fait, contrairement à lui, j'ai fait un bac B à l'époque, donc un bac sciences éco. Je n'aimais pas l'économie, mais j'étais bonne en maths. Donc, comme il y avait beaucoup de maths lorsque moi, j'ai fait de l'économie, je suis allée en économie et j'ai plutôt bien réussi. Et j'ai fait des stats, j'ai continué à faire des maths, et c'est pour ça en fait que je suis restée à l'université pour faire des stats, et je suis prof d'économie malgré mes mauvaises connaissances en économie. Je ne me considère pas comme économiste, je suis plus statisticienne qu'économiste pour moi, mais je travaille sur des données économiques, c'est ce qui fait sûrement que j'ai un statut d'économiste. Et pour préciser un peu les choses, Pascal a dit tout à l'heure en nous présentant que on s'intéressait à la société, et moi, mon sujet de thèse, c'était, et j'étais une des premières à travailler sur ça, c'était mesurer la durée passée au chômage. Et donc, s'intéresser à la durée de chômage, c'est aussi s'intéresser aux gens peu éduqués, aux gens... Enfin, et donc, il y a une notion un peu sociale. Alors, bien évidemment, je n'aidais pas ces gens-là, je les connais pas, et je n'ai pas fait d'interview, mais on avait suffisamment de données pour essayer d'expliquer quelles étaient les caractéristiques des chômeurs et pour mettre en place des dispositifs et pour après tester ces dispositifs. Donc, depuis que j'ai fait de la recherche, je m'intéresse un petit peu à tous ces problèmes sociaux et j'essaie de voir quel est l'impact de certaines politiques publiques, par exemple.
Et justement, parmi ces commandes, entre guillemets, qu'on ait une petite idée, parmi ces stats, on attendait quoi de vous, ce sur quoi vous avez planché?
Au départ, moi, je me suis donc intéressée aux durées de chômage, qui étaient les personnes, quelles étaient les caractéristiques des chômeurs de longue durée. Et petit à petit, j'ai évolué, puisque en se rendant compte que c'était des gens qui étaient peu diplômés, qui avaient des problèmes d'insertion, je me suis intéressée à l'éducation. Et donc, j'ai essayé de comprendre ensuite qui étaient les personnes qui suivaient des formations par apprentissage. Mes sujets de recherche, en fait, m'ont amené à évoluer sur différents domaines et à, de manière générale, à essayer d'évaluer des politiques publiques au départ.
Et du coup, pardon pour la question, qui vous passait commande?
Alors, qui me passe commande? Généralement, les sujets qui nous intéressent, ce sont des commandes qui sont liées à des administrations, à des ministères, à des appels d'offres, à la région. Donc, c'est des problèmes sociétaux un peu généraux et on répond à des sortes d'appels d'offres où on dépose des projets de recherche. Donc c'est plutôt les ministères pour moi.
D'accord. Encore un dernier mot sur le côté enseignement cette fois-ci. Il y a toujours autant d'appétence pour l'économie et puis pour ce que vous proposez, pour les statistiques.
Chez les étudiants.
Ouais. Motivés.
Les étudiants ont très peur des maths, de manière générale, les étudiants en économie. Et il est un peu compliqué de leur faire passer des messages mathématiques et techniques.
Et pourtant, c'est important.
Et pourtant, je crois que c'est important.
OK. Thierry Gallet, alors vous êtes un gros consommateur d'économistes, mais juste avant, on va quand même en savoir un petit peu plus sur vous.
Ce qui m'amuse, là, c'est que quand on regarde la télévision, on a toujours des gens qui sont économistes. Mais c'est impressionnant le nombre d'économistes qu'on peut voir à la télévision. Et vous, vous dites, je ne suis pas économiste, alors que vous faites de l'économie. Alors moi, je ne suis pas économiste. J'ai un parcours universitaire, j'ai fait un peu d'économie. Et puis après, j'ai mal tourné parce que j'ai fait de la gestion. Je suis retourné quand même un petit peu dans le giron de l'économie parce que je suis devenu assureur. Et un assureur, c'est un utilisateur de statistiques. En fait, la particularité de l'assurance, et c'est son point commun avec l'économie, c'est que quand on ne connaît pas le prix du produit, c'est un cycle inversé. C'est-à-dire qu'on ne le connaît qu'une fois qu'il a été consommé, ce produit. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de déterminer le prix de ce produit. Et en fait, c'est d'analyser le risque. Et on utilise des outils qu'utilisent les économistes. Et on essaye de trouver des équations mathématiques, des modèles qui nous permettent de dire, voilà, ça y est, je sais combien ça va me coûter. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas et qu'on est obligé de retravailler. Et ça, je pense que c'est le gros point commun qu'on a avec les économistes. On se trompe toujours et toujours on doit retravailler pour vérifier nos études et adapter nos études. Et c'est ça que je trouve passionnant, à mon avis, dans l'économie. Même si je ne suis pas un économiste, je le rappelle, c'est que l'économiste doit toujours se remettre en cause. Il doit toujours remettre en cause ses hypothèses. C'est peut-être d'ailleurs un petit peu un problème pour certains économistes. On entend à la radio, à la télévision, qu'ils peuvent asséner des vérités parce qu'ils sont convaincus. Et on se souvient de certaines crises, la crise financière de 2008, où on constate après coup que finalement, si on avait su, on n'aurait pas fait ça. Je crois que M. Griezmann, c'était ça, néolibéral, avait dit « Moi, le marché financier, je le laisse fonctionner et puis tout ça reviendra dans l'ordre. » Et puis il s'est rendu compte, après coup, « Non, j'aurais peut-être pas dû faire ça. » Donc je trouve ça intéressant dans l'économie, c'est ça qui me... Mais après, il y a les économies d'entreprise, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est ça, je trouve passionnant, c'est toujours revoir, on a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, parce que notre monde évolue énormément, de plus en plus vite. On a récemment, on a eu les pandémies, on a eu l'euro, on a eu la globalisation financière. Tout ça, c'est des éléments qu'on doit intégrer. Et puis, de façon très pragmatique pour nous, on a des nouveaux modes de déplacement. Un assureur, aujourd'hui, doit se poser la question d'assurer une trottinette électrique, analyser le risque d'une trottinette électrique. Voilà, c'est ça que j'aime dans ce métier, le parallèle que je fais avec nos amis économistes.
Et du coup, avec des économistes, alors ils n'écoutent pas, on va en profiter, on parle facilement, on a le même vocabulaire, on a le même degré de connaissance, comment on travaille ?
Pour préparer cette petite table ronde, j'ai lu pas mal... J'ai écouté pas mal, sur YouTube d'ailleurs, des économistes. Non, on n'a pas le même vocabulaire. Non, non, on doit l'avoir, mais je pense que selon les économistes, on peut avoir, je crois qu'il faut une certaine connaissance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'un économiste, c'est qu'il nous permette, en tant que citoyen même, de découvrir, de connaître notre environnement. Mais qu'ils le fassent de façon simple. Il y en a qui le font de façon très simple et très claire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font de façon moins claire, mais on s'habitue, on lit beaucoup, on traduit, on comprend. Et, Mais c'est très, très technique, en effet. C'est très complexe. Hein. Je pense que l'économie est extrêmement complexe. Ce sont des gens très intelligents.
Je vous laisse respirer. On va revenir avec nos deux premiers, Christian Aubin et Liliane Bonal. On parlait rapidement et on va en reparler. Recherche fondamentale, recherche appliquée, puis aussi des spécificités à Poitiers sur certains labos. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît ?
Alors oui, en économie, on a des spécificités. On a deux grands axes de recherche. Dans un premier axe, on travaille beaucoup sur la monnaie, la banque, la finance. Donc, nos chercheurs s'intéressent. Christian vous expliquera mieux, parce qu'il était un financier et il était dans cet axe de recherche. Mais il s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe au niveau de la banque et même peut-être de l'assurance. Ils font quelques études. Et on a un autre axe qui est en train de se réorienter. Donc, il était initialement très orienté études des territoires. Et là, on réoriente cet axe sur l'éducation, le travail et la santé. Pourquoi la santé ? Parce qu'on pense qu'il y a de réels enjeux entre peut-être les médecins et faire de la pluridisciplinarité autour de la santé. Et on pense que nous, les économistes, on a des choses à dire, en tout cas des choses à montrer, pas seulement avec nos données, mais peut-être avec nos modèles aussi. Donc, en gros, on a deux grands thèmes, la monnaie, la banque, la finance, et maintenant la santé et le travail, et essayer d'évaluer des politiques.
Christian Aubin, vous voulez compléter ?
Je crois que tu as dit l'essentiel au niveau des deux axes de recherche. Donc, moi, je peux dire, effectivement, j'ai travaillé plutôt dans l'axe qui était monnaie, finance, donc avec des travaux selon les époques. Il y a eu des moments où on était plus orienté monnaie, c'est-à-dire essayer de comprendre les mécanismes de politique monétaire, les comportements de banque centrale, les choix de politique monétaire. Et puis, il y a eu l'axe finance qui était plus là, comprendre les marchés financiers, comment on peut analyser, comprendre les mouvements de prix sur certains marchés financiers et les réglementations, essayer d'évaluer ou de réfléchir sur les réglementations qu'on pouvait envisager pour ces marchés-là. Donc, ça fait partie des pistes sur lesquelles on a pu travailler au niveau des gens qui étaient dans cet axe monnaie-finance.
Question à tous les deux. Est-ce que le reproche qu'on ne peut pas faire aux économistes, mais aussi à d'autres, c'est de travailler, j'étais prêt à dire, en sous-marin, dans leur coin, à faire des choses hyper intéressantes, mais peut-être pas avoir spécialement envie ou le besoin de communiquer, de le faire savoir ?
En sous-marin, on ne travaillait pas de façon isolée, parce que je vois par exemple au niveau de l'équipe monnaie-finance, on faisait partie d'un groupe de recherche européen, donc en fait qui regroupait des labos de France et d'Europe, avec donc des échanges entre chercheurs sur les thèmes de recherche. Alors c'est vrai qu'on reste dans la profession quand on fait ce genre de choses, et c'est vrai que alors il y a parfois des communications, mais c'est vrai qu'on a peut-être parfois du mal à communiquer vers l'extérieur. Alors ça dépend des sujets. Il y a des sujets sur lesquels on arrive peut-être plus facilement à communiquer que sur d'autres. Puis ça dépend aussi des moments. J'ai souvenir, par exemple, sur le thème monnaie. Quand on a eu le passage à l'euro, on a eu l'occasion là, de communiquer à l'extérieur. Et puisqu'on est ici à Mendes France, on avait organisé avec Mendes France tout un tas d'événements pour expliquer aux gens justement à la fois l'histoire. Enfin, c'était à l'occasion du passage à l'euro, l'histoire de la monnaie, comment fonctionner. Donc on a eu des conférences, on a eu une exposition ici pendant 3 mois. Avec tout un tas de choses qui ont été faites. Donc on essaye de le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à faire. Puis il y a des thèmes qui sont plus ou moins porteurs. Et c'est vrai que sur certains thèmes, c'est plus ardu à faire passer. Mais bon, alors on ne le fait sans doute pas assez, puisque ce n'est pas toujours bien, ressenti.
Mais... Liliane Bonal.
Oui, je pense qu'il y a des thèmes qui sont plus faciles à exporter et à échanger, enfin, pour lesquels on peut échanger avec les autres. Mais quand on fait de la microéconomie, donc ce qui est mon cas, et quand on s'intéresse plutôt aux individus, à leur comportement, c'est juste un petit peu plus facile peut-être de discuter avec les autres, parce que ben, le chômage, tout le monde sait ce que c'est, les durées de chômage, tout le monde sait ce que c'est, un niveau d'éducation faible. Donc on peut plus facilement échanger que quand on s'intéresse à la banque, à la finance, où on a des choses très, très techniques. Maintenant, je crois qu'on est un peu conscient de ça et on essaie de, chaque fois qu'on on écrit un article de recherche, il s'adresse bien sûr à nos collègues chercheurs, mais on essaie aussi d'écrire quelque chose de plus simple où on veut parler à tout le monde et où on est un langage plus commun et on tend vers ça et on essaie de manière systématique d'avoir deux écrits très différents pour s'adresser à des publics très différents. Donc je crois qu'on commence à être conscient du fait qu'il faut parler aussi à tout le monde.
Avant de retrouver Thierry Gallet pour parler de l'entreprise dans un instant, un mot quand même sur les compétences. On parlait de compétences fondamentales, compétences spécifiques des métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Les compétences fondamentales et les compétences spécifiques. Les compétences spécifiques, peut-être une compétence spécifique, c'est arriver à s'exprimer auprès de tout le monde. Ça peut être très spécifique, pas spécifique aux économistes, mais elle peut être transversale et je crois qu'on ne l'a pas encore suffisamment. Et les compétences fondamentales, c'est peut-être bien comprendre le système dans lequel on vit, bien maîtriser les modèles économiques et les théories économiques pour essayer de voir quelle est la théorie la plus adaptée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, Christian.
Christian,
les compétences fondamentales.
Moi, je suis très gêné parce que j'aime pas le terme compétence. C'est le truc à la mode. Maintenant, on doit apporter des compétences. Moi, je pense que les compétences, c'est bien, mais les connaissances, c'est quand même pas mal non plus. Pendant très longtemps, on m'a dit que l'enseignement, c'était de transmettre des connaissances. Et les compétences, je dirais qu'elles arrivaient avec. Maintenant, on met toujours l'accent sur les compétences. Bon, pour moi, les compétences, et quand on parle de compétences spécifiques, c'est des connaissances. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut comprendre comment fonctionne l'économie, il faut être capable de comprendre comment on peut analyser les mécanismes d'offre et de demande sur un marché. Alors, est-ce que c'est des compétences ou est-ce que c'est des connaissances? J'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'est effectivement maîtriser certains outils d'analyse, avoir une certaine démarche dans la façon d'appréhender des problèmes qui est la démarche spécifique de l'économiste. Pour moi, c'est ça, c'est avoir des grilles de lecture, avoir un certain nombre de choses. Alors, est-ce que c'est des compétences ou est-ce que c'est des connaissances? Je suis toujours très mal à l'aise par rapport au vocabulaire. Mais pour moi, c'est ça, le côté, la compétence économique, c'est une certaine façon d'appréhender les choses en s'appuyant sur ce qu'est l'originalité de l'économie. On dit que l'économie, c'est la science des choix, c'est-à-dire c'est étudier le comportement des individus dans l'affectation de ressources rares entre des choix alternatifs. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais c'est ça fondamentalement l'analyse économique. Et pour faire ça, il faut simplifier la donnée d'un problème et se dire voilà, comment est-ce que l'individu, dans un cadre d'hypothèse donnée, il va faire ses choix et comment est-ce que je peux expliquer le choix de l'individu d'acheter ou de vendre à un moment donné et comment l'interaction entre des individus qui veulent acheter des autres qui veulent vendre. Donc il y a un certain mécanisme. C'est la façon dont l'économiste va aborder le problème social. Et pour moi, c'est ça la compétence spécifique, qui n'est pas la même que celle du sociologue ou du spécialiste de sciences politiques, qui pourra regarder le problème du chômage ou le problème de l'inflation. Le sociologue peut s'y intéresser, le spécialiste de sciences politiques peut le faire aussi. Il va le faire avec d'autres outils, avec un autre regard. La spécificité, donc la compétence, si on veut dire spécifique de l'économiste, ça va être justement d'avoir un certain nombre d'outils, de grilles d'analyse qu'il va être capable de mobiliser. Pour moi, c'est ça le côté important. Alors après, effectivement, les compétences transversales, le savoir raisonner, savoir construire un raisonnement logique, mais ça, c'est vrai dans n'importe quelle discipline scientifique, savoir s'exprimer, ensuite savoir faire passer les idées à l'oral ou à l'écrit. Mais là aussi, ça, c'est vrai que dans toutes les disciplines, c'est vrai, c'est pas spécifique à l'économie.
Merci. Thierry Gallet, je reviens une dernière fois vers vous, et puis après, on passera la parole au public. On parlait de compétences métiers spécifiques. Vous avez des exigences aussi dans votre domaine?
Alors, dans le domaine de l'assurance, on va dire qu'on a plusieurs types de métiers qui peuvent faire appel aux connaissances et compétences des économistes. Le premier type de métier, c'est pouvoir analyser le risque. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tarifer le produit, donc étudier le risque et donc concevoir les produits d'assurance, les tarifer. Et là, on a besoin de compétences et de connaissances d'économistes parce que d'ailleurs, on a pas mal d'économistes à la Mutuelle de Poitiers qui travaillent sur ces sujets, qui sont responsables d'études techniques, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont utiliser des statistiques pour pouvoir voir quelle est la probabilité, quel est le le risque auquel on a affaire, donc très clairement quantifier le risque. Et puis, ils vont aussi devoir s'ouvrir sur l'extérieur, connaître l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement économique. Et donc ça, on a besoin de ces compétences et de leurs connaissances. Je pense que c'est important d'ailleurs, et je trouve que c'est un intérêt d'un économiste, c'est qu'il est naturellement ouvert vers son environnement. C'est pas un scientifique qui va se concentrer uniquement sur ces données. Il cherche à voir quelles sont les autres variables qui peuvent influer sur son environnement. Et je trouve que ça, c'est un atout important dans notre métier d'assureur parce qu'on est dans un monde qui évolue, comme je vous le disais tout à l'heure, de façon très importante. Donc ça, c'est un premier niveau de métier. Et puis, il y a un deuxième niveau de métier, c'est que quand on est assureur, on gère des fonds qui ne nous appartiennent pas, d'ailleurs. Quand vous avez un sinistre, on va être amené, mettons un sinistre automobile, une personne gravement blessée, cette personne-là, on va devoir l'indemniser et puis on va lui payer régulièrement une rente. Et pour ça, on doit placer de l'argent. Et donc, le rôle de l'économiste, et là, c'est plutôt le financier, lui, il va nous aider à placer cet argent, à étudier les marchés, à étudier l'évolution des taux d'intérêt, à regarder ce qui se passe, à anticiper tout ça, parce que naturellement, il faut que cet argent que l'on place, il soit sécurisé. Donc après, on a une règle de prudence, naturellement. Mais ça, c'est un autre métier d'économiste. C'est cet aspect financier, c'est l'analyse des marchés. Donc ils sont très, très affûtés. Ils sont très à l'écoute des marchés. Ils vont regarder régulièrement des indices. C'est leur travail quasiment quotidien. Et puis, ils font aussi appel, parce que nous, Mutuelle de Poitiers, nous ne sommes pas une grosse entreprise d'assurance. Il y a des assureurs, il y a des banquiers qui ont des économistes au sein de leur entreprise, dont le métier est d'étudier l'ensemble du marché, l'ensemble des variables. Nous, on fait appel à des compétences extérieures, on fait appel à des publications d'économistes qui sont de très grande qualité, au travail aussi de nos fédérations. Et ça permet justement à nos financiers de placer et de sécuriser ces placements. Je pense que c'est les deux facettes du métier de l'assureur.
Voilà. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure des questions-réponses. On est entre nous, il n'y a pas de souci. Vous me faites un petit signe, je m'approche. Pour des raisons de Covid, je garderai le micro à la main pour éviter de désinfecter à chaque fois. Qui veut se lancer le premier pour une question, pour une remarque? Allons-y. Sinon, je dénonce. Je connais 2-3 personnes dans l'Assemblée. Je vais tendre mon micro discrètement. Alors, qui veut se lancer? Oui, allez. Je garde le micro avec moi.
Merci. Oui, donc une question un peu fondamentale sur Pascal Chauffon au tout début de l'intervention à un petit peu lancer le sujet entre ce débat assez fondamental entre science et idéologie. Quelle est la place de l'économiste dans ce débat transversal et fondamental qui existe depuis des années? Il suffit juste de regarder les débats, voir les conflits qui existent au sein de la profession entre les orthodoxes, les hétérodoxes, entre des effets de mode aussi qui sont de plus en plus présents, avec la pression aussi du marché des publications évoquée par Christian. Voilà, comment on peut placer l'économiste dans cette grille de lecture entre science et idéologie. Même le titre en lui-même, science économique, c'est peut-être un peu amusant de voir qu'on a peut-être le sentiment que l'économiste a le besoin de valider un petit peu sa présence en mettant le côté science devant le mot. Ce n'est pas de l'économie, c'est de la science économique. Donc le côté ostentatoire un peu dans le slogan. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui dérive un petit peu de la première question, c'est comment vous pouvez distinguer un bon d'un mauvais économiste? C'est une question un peu provocante de la soirée. C'était
pour l'instant. Merci. Alors, ça vous inspire quoi comme réponse?
Je ne sais pas. C'est vrai que la question, c'est vrai qu'on l'entend, enfin, la remarque sur le côté idéologie, c'est pas une question que je me pose, que je me suis posée moi quand je faisais ma recherche. J'ai toujours considéré que l'économie, c'était une science. Alors évidemment, c'est une science qui n'est pas la même, qui n'a pas les mêmes outils, qui n'a pas les mêmes a priori, les mêmes hypothèses, les mêmes cadres d'analyse que les sciences dites dures mais c'est une science humaine et sociale. Alors avec tout ce que ça implique, toutes les difficultés spécifiques à une science sociale, puisque science avec tous les problèmes de prévision, effectivement, le reproche qu'on fait toujours aux économistes, c'est de dire oui, mais vous êtes incapable de prévoir ou vous avez prévu 9 des 5 dernières crises. Donc pour dire qu'on n'est pas doué là-dessus. Mais j'aurais envie de dire, on prend un scientifique des sciences dures, vous prenez un physicien, vous le mettez au pied d'un arbre en automne, puis vous lui dites, voilà, cette feuille-là, j'aimerais savoir quand est-ce qu'elle va tomber et à quel endroit on va la retrouver par terre. Il va vous dire, c'est pas possible. Il va vous dire, statistiquement, je peux vous dire qu'il y a une grosse probabilité pour qu'elle tombe avant la fin de l'hiver et qu'elle soit quelque part au sol, au pied de l'arbre. Mais il est incapable d'en dire plus. L'économiste, il est un peu dans le même genre de situation parce qu'on analyse des choses où il y a des multiples variables qui peuvent influencer. Et donc, automatiquement, on ne peut pas faire une prévision parfaite. On peut essayer de donner des prévisions en moyenne en disant, effectivement, il y a un certain nombre de tendances, de forces globales qu'on va essayer de trouver, qu'on peut expliquer. Et c'est là-dessus, je crois, qu'on doit essayer de se focaliser en tant qu'économiste, trouver quelques mécanismes fondamentaux. Chercher à avoir l'explication dans le détail de tout, je crois que c'est impossible. Et c'est là où justement le travail avec les économètres, avec les statisticiens est important, parce qu'on essaie de dégager de l'observation d'une multitude de faits, avec une multitude de données, essayer de dégager certains éléments fondamentaux qui feront une forme de loi scientifique, c'est-à-dire qu'il y aura une forme de régularité, parce qu'on n'a pas la possibilité, nous, de faire ce que fait le scientifique à propos de la chute des corps, de dire ben, je prends un tube, je le mets sous vide et je regarde comment se comporte un corps quand on le lâche dans le vide. Nous, on ne peut pas faire ça. Ou alors, si on essaye, on prend quand même des risques importants parce que c'est toute la société qu'on risque d'emmener dans le mur. Donc, il y a ces difficultés. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a bien une démarche scientifique qui va impliquer des outils très spécifiques parce qu'on n'a pas la capacité de faire des expériences en laboratoire comme peuvent le faire d'autres approches scientifiques. Mais après, si l'économiste a une certaine rigueur dans sa démarche, la question d'idéologie, pour moi, elle ne va pas se poser, puisqu'on doit à ce moment-là se dire, voilà, j'ai un certain cadre d'hypothèses, et à partir de là, j'essaie de développer mon analyse de façon rigoureuse. J'essaie de valider empiriquement avec les moyens possibles et avec évidemment toute la prudence qu'il faut avoir derrière. Alors, la difficulté, elle va apparaître effectivement. Alors, ça peut apparaître sur les hypothèses, mais la discussion sur les hypothèses, ça, c'est un problème après épistémologique. Moi, je considère qu'il ne faut pas trop discuter sur les hypothèses, mais plutôt sur les conclusions et savoir si les conclusions, elles sont validées par les faits ou pas. Alors, tout le problème, c'est comme on n'a jamais une validation parfaite, puisqu'on ne peut pas faire d'expérimentation en univers parfait. C'est toujours des validations qui sont imparfaites. Et donc, sur ces validations imparfaites, c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a ceux qui vont dire « Ah, ben, c'est parce que le marché fonctionne bien », et puis il y a ceux qui vont dire « C'est parce que le marché fonctionne trop bien » ou « Parce qu'il ne fonctionne pas assez ». Et donc, c'est là où, effectivement, il peut y avoir, à ce moment-là, une certaine part d'interprétation qui peut, justement, céder le pas à l'idéologie. Et après, évidemment, il y a le côté normatif qui enchaîne. Mais si on raisonne sur l'aspect, analyse positive, c'est-à-dire vraiment essayer de comprendre ce qui est, d'expliquer les mécanismes, normalement, le côté idéologique, il ne doit pas se poser. Mais il arrive un petit peu derrière. Et c'est vrai qu'après, certains ne vont peut-être pas avoir la retenue. Et alors, c'est le problème un petit peu, on parle tout à l'heure, Thierry parlait des nombres d'économistes qu'il y a dans les médias. C'est vrai que parfois dans les médias, on a des économistes qui font des raccourcis, alors qui sont parfois des économistes qui n'ont peut-être pas toujours toute la rigueur scientifique, ou alors ils l'ont eu à un moment donné dans certains travaux, mais quand ils passent à la télé, il faut faire vite, il faut synthétiser, il faut résumer, et puis tant qu'à faire, si on veut faire de l'audimat, il faut même des trucs un petit peu qui percutent, donc on simplifie, on fait un truc choc, et puis c'est repris derrière, et ça peut être après exploité à des fins qui sont plus idéologiques ou politiques ou autres. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir des distorsions et des choses qui sont embêtantes. Alors ça, mais sur l'aspect purement démarche scientifique, pour moi, ça doit pouvoir se développer. C'est comme ça que je le vois.
Merci pour la réponse. Liliane Bonal, Thierry Gallet, un petit mot, une petite réaction à la question posée.
L'idéologie, il faut faire un peu attention quand même, parce que l'idéologie, parfois, ça devient du sectarisme et on n'est plus très ouvert, comme le disait Thierry. Donc, il me semble que Il faut être rigoureux dans ce qu'on raconte, il faut être rigoureux peut-être dans nos hypothèses, peut-être dans nos conclusions. Je sais que la mode, c'est de dire qu'on fait parler les données, mais il faut faire attention parce que des fois, elles nous parlent mal. Donc, il faut les comprendre, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, parce qu'effectivement, je crois qu'on peut faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres et aux résultats de statistiques, mais il faut être prudent, et c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux étudiants, à bien faire attention, à toujours tester quand ils ont une conclusion, il faut qu'ils soient sûrs de leur conclusion, donc il faut la tester de manière rigoureuse, et je pense que si on est rigoureux, Et si on n'est pas trop sectaire et si on ne se fie pas juste à une idée, mais qu'on veut essayer de raconter l'histoire qui est la bonne et pas celle qu'on a envie de raconter, je pense que c'est... Et pour le débat hétérodoxe et orthodoxe, c'est vrai qu'il y en a un, c'est vrai que... Mais je crois que c'est un faux débat... Enfin, c'est pas un faux débat dans le sens où il existe... Mais c'est un peu dommage, ce débat est un peu dommage parce que je pense que des deux côtés, il y a sûrement des choses très intéressantes à raconter. Il suffit juste de ne pas se dire ben, « c'est moi qui ai raison et puis tu as tort », il me semble.
Merci. Thierry Gallet.
Alors, moi, j'ai déjà... Je ne vais pas insinuer dans ce débat purement économique. Je pense que juste, il faut prendre... une vision aussi pragmatique et l'entreprise peut apporter cette vision et ces éléments. Nous, on doit mettre en place des indicateurs très concrets quand on prend nos décisions. Et je pense que c'est important de l'intégrer, notamment quand on décide de... Il y a des indicateurs que certaines entreprises utilisent, notamment pour les placements financiers, peut-être qu'ils ne viennent pas de pensées économiques complexes. Moi, je crois que c'est important d'avoir ce côté pragmatique. Je crois aussi qu'il est important aussi que l'économiste rappelle quand même certaines notions et que nous vivons au quotidien, nous, dans les entreprises, quand on parle de valeur, de la notion du travail. On entend des politiques qui vous parlent de travail et on se dit mais attendez, concrètement posez-vous la question, et je pense que c'est le rôle de l'économiste de dire le travail ce n'est pas qu'un gâteau qu'on partage, le travail c'est autre chose, c'est une autre dimension, et on le voit concrètement dans les entreprises, mais mon propos n'est pas de faire de la politique aujourd'hui, mais c'est aussi de bien rappeler quelques définitions, quelques notions essentielles, quelques connaissances basiques que l'on doit tous partager, que ce soit dans nos entreprises ou que ce soit en tant que citoyen, pour que nous ayons aussi un jugement un petit peu plus objectif au moment où on va prendre nos décisions. Je voulais parler juste de l'aspect scientifique et faire un parallèle avec l'assurance. En assurance, vous savez, il y avait des risques qu'on considère comme non assurables. Et ils relèvent d'un régime qui s'appelle le régime des catastrophes naturelles. C'est-à-dire que ce régime a été mis en place en 1982 et on a dit on n'est pas capable d'assurer ces risques-là. Et donc, on va mettre en place un régime avec la solidarité nationale et la solidarité de l'État. Et finalement, on a accumulé beaucoup de données. On a des outils statistiques aujourd'hui qui font qu'un assureur peut aujourd'hui considérer que ce risque devient assurable. Les sciences lui permettent de considérer que ce risque est assurable. Après, il y a une notion de mutualisation et de segmentation. Ça, c'est un autre aspect. Mais je crois qu'en économie, c'est la même chose. On doit, de toute façon, on est obligé, dans notre monde qui se complexifie, qui se globalise, on est obligé, de toute façon, d'intégrer des outils scientifiques pour nous permettre et pour permettre aux économistes et à nous tous de vivre correctement dans ce monde. Moi, ce que je constate, c'est que des crises qu'on a vécues il y a quelques années, peut-être qu'on les vivra pas de la même manière. On trouve les économistes nous permettent de trouver des solutions. Ils n'empêchent pas les crises. Personne ne peut empêcher les crises. Ils peuvent dire cette crise arrivera un jour ou l'autre. Le défi, peut-être que le bon économiste, c'est celui qui vous dit la crise, elle arrivera tel jour. Mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, ils mettent à notre disposition des outils qui nous permettent de régler ces crises, que ce soit dans notre pays, dans nos sociétés. on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, la pandémie qu'on a vécue, les dispositions qui ont été mises en place, je pense que personne, d'ailleurs on entendait des interviews il y a quelques mois, au début des années 2020, on rentre dans une crise dramatique, etc. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a des dispositions, peu importe ce qu'elles donnent, peu importe ce que ça va donner, mais qui ont été mises en place à la lumière de crises qu'on a déjà vécues. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'apport intéressant de l'économiste. Et je pense que c'est l'apport intéressant des sciences et des outils statistiques que l'on peut mettre. Et le big data, c'est quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant. Vous disiez en effet que les étudiants devaient intégrer ces connaissances. Je pense que c'est essentiel qu'ils intègrent ces connaissances statistiques, mathématiques, qu'ils utilisent ces outils. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir évoluer dans notre monde. On était 1 milliard il y a quelques années, on est 5 milliards, 7 milliards. C'est un enjeu extrêmement important. Pour moi, l'économiste, il a un rôle important.
Voilà. Merci bien. Allez-y, n'hésitez pas. Oui. Je ne dois pas être loin de la vérité. Si je dis qu'il y a quelques étudiants dans la salle, c'est le moment ou jamais, ça pourrait être sympathique de vous entendre. Bonsoir.
Bonsoir.
Tiens le micro.
D'accord. Ravi. Donc on est économiste, on est enseignant, on est chercheur, donc on a plein de... On a un métier qui est très varié. Quoi ?
De défauts,
voilà. Et ma question est suivante. On est assez tiraillé, là je parle plutôt de la profession, hein. On est assez tiraillé parfois entre ces différentes positions. Et également parce que le monde évolue extrêmement rapidement. C'est-à-dire, moi, je dis toujours à mes étudiants, quand je les regarde avec leur ordinateur, je ne suis pas si vieux que ça, mais si je voulais avoir l'ordinateur qu'ils ont actuellement, il m'aurait fallu, à leur époque, 1 million d'euros. Okay, il y avait la NASA qui l'avait. Et les trois plus grandes entreprises d'aujourd'hui, Google, elles n'existaient pas quand moi, j'étais étudiant. Voilà, donc, simplement, il a fallu, à l'époque, c'était General Motors. Donc, ce monde a extrêmement évolué. Et j'ai l'impression que nos outils, par contre, les outils, même en termes d'enseignement, hein, les ouvrages, les modèles qu'on utilise, n'ont pas tant évolué que ça. Qu'il y a dans nos enseignements, hein, qu'il y a un écart un peu entre ce qu'on peut faire en recherche et ce qu'on peut, notamment les étudiants en début de cycle. En début de cycle, moi, je m'amuse chaque fois à leur demander qu'est-ce qui vous intéresse en économie. Et il y a un écart comme ça entre ce qui va les intéresser. Et ce qu'on va trouver dans les ouvrages, ce qu'on leur fait depuis très longtemps, pas souvent, hein, quand on leur demande ce qui les intéresse, c'est les inégalités, c'est le réchauffement climatique. C'était pas vrai il y a quelques années, ça change. Hein, et donc, moi, ça, c'est comment vous voyez en fait l'équilibre entre ce qu'on peut faire en recherche et ce qu'on peut enseigner. Et comment coller aux aspirations des étudiants ? Parce qu'on les lâche, sinon. J'ai l'impression qu'on les lâche. Moi, j'ai toujours été... Je venais plutôt des maths, je suis arrivé là. Quand on va parler de théorie en économie, j'étais... Ah, il y a des théories en économie ? Il m'a fallu 10 ans pour comprendre que s'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de connaissance. Et donc, s'il n'y a pas les faits... C'est-à-dire, on peut observer des faits. Moi, je montre toujours une courbe. La longueur des cheveux et les salaires. Plus vos cheveux sont longs, plus vos salaires sont faibles. Si j'ai pas de théorie derrière, je dis aux gens, coupez-vous les cheveux et vous augmenterez vos salaires. Et je peux faire ça, hein, je ne suis pas pour ça. À la Corée du Nord, je fais ça, le gars, il fait ça. Quoi. Donc, s'il n'y a pas de théorie, et ça, on a du mal à faire comprendre aux étudiants, s'il n'y a pas de théorie derrière, on n'a pas de connaissances qui se construisent. Et donc, il faut qu'il y ait un lien entre les faits, l'empirique et les théories. Mais voilà, la difficulté dans ce métier-là, c'est cette complexité-là, il faut que les étudiants la saisissent tôt, sinon on les lâche. Donc, ma question, c'est juste voilà, votre impression sur toutes les années écoulées, la vitesse avec laquelle le monde a évolué, les connaissances économiques ont évolué en recherche, et comment on peut faire passer ça aux étudiants assez rapidement, pour les garder avec nous. Quoi. C'est un peu...
un sentiment, une réflexion.
Je comprends bien la réflexion qui est là. Comment faire ? C'est pas évident parce que je pense que malheureusement, en plus, il y a une évolution de la société, des attentes, etc. Il y a aussi, je crois, une évolution du public étudiant. En tout cas, même si j'ai quitté il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai ressenti ça quand même progressivement, avec peut-être dans l'évolution du public étudiant une certaine difficulté peut-être à rentrer dans un raisonnement abstrait théorique. Et je crois que ça s'est accentué. Enfin, j'ai eu l'impression, moi, j'ai ressenti que j'ai eu au cours de récré, c'est quelque chose qui s'était accentué. Donc il y avait une attente de l'étudiant, effectivement, d'aller beaucoup plus vite sur des choses appliquées, alors, effectivement, sur des problèmes d'actualité ou autre. Donc effectivement, c'est l'art de l'enseignant à ce moment-là, c'est d'arriver à faire passer ce qui me paraît être fondamental, c'est-à-dire effectivement un certain nombre d'éléments d'analyse théorique, de principes d'analyse qui sont nécessairement basiques, parce qu'il faut commencer par le commencement. On ne peut pas tout de suite leur mettre des modèles complexes sur des effets d'externalité ou autres pour leur faire comprendre des problèmes d'environnement, parce qu'il y a une analyse économique qui peut traiter ça. Mais c'est vrai que pour l'étudiant en première année, c'est peut-être pas facile de faire comprendre. Alors, il faut trouver des techniques, il faut trouver des astuces pour le faire. Je sais que moi, quand j'avais un cours d'analyse économique en première année, j'essayais sur un certain nombre de thèmes comme ça de trouver, mais je suis pas sûr que je réussissais. Hein, mais c'est-à-dire trouver effectivement, partir de certains des exemples relativement proches de certaines aspirations. Donc, ça peut être effectivement un problème d'environnement, truc comme ça, et puis de faire comprendre à partir de courbes d'offres et de demandes, qu'est-ce que c'est qu'une externalité et comment on peut traiter cette externalité en déplaçant les courbes, en mettant des taxes, un truc comme ça. Bon, je ne suis pas sûr que j'y réussissais, hein, mais pour moi, c'est la façon d'arriver. Parce que essayer de traiter le problème appliqué sans avoir les bases théoriques, ben on va faire en fait du saupoudrage, on va faire de la... Tant pis, je me lâche, je vais être méchant. On va faire du café du... Non, j'allais pas dire café du... On va faire de l'école de commerce.
Vous aviez commerce de bon,
Léa. Café du commerce, mais la mauvaise école de commerce, c'est-à-dire celle où on va donner une espèce d'un vernis de culture économique qui permettra effectivement de discuter comme ça au café ou autour d'une table, mais sans avoir les outils d'analyse. Donc effectivement, l'outil d'analyse... il est un peu ardu parce qu'il suppose de l'abstraction, il suppose des choses théoriques. Et au début, ce n'est pas facile à faire passer. Les cours de microéconomie en première année, quand on arrive à dire, voilà, on va supposer que... Effectivement, quand ça a arrivé, même moi, quand j'étais étudiant, je me souviens que le cours de microéconomie, ça avait du mal à passer parce que voilà, faut faire le Lagrangien, il faut faire des trucs avec des outils mathématiques. Bon, ça passe pas beaucoup mieux aujourd'hui. Je crois que c'est encore plus difficile à faire passer. Mais il faut essayer d'arriver à ça. Et c'est là où l'enseignant, il faut qu'il trouve des astuces pour faire passer les éléments. Alors, en essayant, là, il y a peut-être des choses, effectivement, qu'on faisait autrefois qui étaient trop sophistiquées. Bon, quand on faisait en microéconomie, on faisait nos histoires de monomaximisation. Après, on faisait des équations de Stutsky, on faisait des tas de trucs. Bon, c'était sûrement très intéressant, c'était très bien. C'est vrai qu'en première année, on peut peut-être faire des choses plus... Et je crois qu'aujourd'hui, on ne fait plus ces choses compliquées, on fait des choses plus simples. Mais il ne faut pas non plus, sous prétexte de simplification, il ne faut pas oublier, je pense, les fondamentaux. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours essayé de faire le métier d'enseignant, c'est-à-dire de garder quand même un certain nombre de principes d'analyse fondamentaux et de les appliquer le plus vite possible. Mais je reconnais que ce n'est pas facile et que je ne suis pas sûr d'avoir réussi à chaque fois.
Liliane Bonal, la conscience de ce risque, parfois, de ce fossé entre ce qui est enseigné et puis les attentes... très précise des étudiants.
Je pense qu'il est énorme, mais je pense aussi que effectivement, faut avoir des bases théoriques, il faut avoir un minimum de réflexion pour comprendre certains phénomènes. Et il me semble, alors je n'ai jamais fait de musique de ma vie, mais pour avoir côtoyé des musiciens, il me semble que on ne peut pas faire de la musique à haut niveau si on n'a pas fait un minimum de solfège, et donc si on ne sait pas un petit peu embêté à lire des choses un peu compliquées. Et je crois que nous, c'est un peu pareil, quoi. Il faut faire des choses qui ne sont pas drôles. Et peut-être qu'il faut donner des exemples aux étudiants pour leur expliquer qu'à partir de ces types de modèles un peu simples, on pourra à un moment donné parler de choses qui les intéressent, les changements climatiques ou les inégalités ou je ne sais quoi. Leur donner des exemples, mais... On est obligé de faire un minimum de théorie pour qu'on raconte des histoires qui sont un peu intéressantes et solides.
Ça marche. Vous me piquez mon job, mais j'allais les relancer une nouvelle fois. Parce que la question à quoi servent les économistes, moi j'y vois déjà beaucoup plus clair, peut-être que l'Assemblée aussi. Après, est-ce que le métier d'économiste fait rêver ou quelles idées on a sur le métier d'économiste, franchement, ça serait intéressant d'avoir des réflexions des uns des autres. Je sens que...
D'abord, merci aux économistes de vos interventions. Mais moi, je suis persuadée que, et je m'adresse aux étudiants, les économistes ont un grand futur devant eux. Il ne faut pas hésiter à être économiste, parce que l'homme, par principe, a horreur de l'incertitude et de l'avenir. Et en fait, les économistes, en nous expliquant très bien le passé et le présent, en élaborant des grandes théories, nous permettent éventuellement de comprendre ou d'appréhender le futur. Alors après, deux sortes d'économistes, un peu comme vous disiez, madame, les économistes qui vont nous donner les clés, les outils, les moyens de réfléchir et d'être nous-mêmes, de nous donner l'intelligence pour essayer d'appréhender l'avenir. Et puis ceux-là qui le font avec une certaine humilité, parce qu'ils donnent des outils, puis on sait. Et puis les autres économistes qui sont un peu comme disait Monsieur Gallet à la télévision et qui commencent à nous, voilà, à être très certains du futur. Et Dieu sait si moi j'en écoute des économistes comme ça. Et souvent je les ramène au basique, c'est-à-dire en disant, bah, vous savez, moi par exemple à Poitiers, je peux vous assurer que les entreprises ont des difficultés actuellement, ou voilà, enfin, qui ont du mal à revenir sur terre. C'est peut-être parfois la difficulté des économistes. Moi, je vais vous poser deux questions justement sur l'avenir peut-être du métier d'économiste pour les étudiants qui sont là. En quoi le métier d'économiste ou la réflexion des économistes ou les prédictions ou les explications, mais surtout sur le futur, en me tournant vers le futur, en quoi, entre autres, deux notions qui sont effectivement l'afflux de données disponibles et donc l'utilisation par l'intelligence artificielle de ce big data, hein, qui est quand même qui permet d'aller beaucoup plus vite pour utiliser ces données et qui donne peut-être plus de temps aux économistes pour réfléchir sur ces données. Donc, en quoi cela va changer l'avenir des économistes dans leur théorie, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de prédire. Et de la même façon, est-ce que la RSE, qui est quand même un tournant majeur aujourd'hui, qui n'existait pas avant, comment cette notion va-t-elle biaiser justement les prédictions des économistes, puisqu'il faut qu'ils prennent un nouveau facteur pour expliquer un peu, justement, comme disait Monsieur Aubin, les décisions des personnes. Est-ce que j'achète pas, est-ce que j'épargne pas, est-ce que je place, est-ce que je suis craintif. Et je pense que cette démarche RSE, qui est nouvelle, qui est peut-être très bien appréhendée par les jeunes, moins bien par les plus anciens économistes, en quoi ça va changer votre métier, ça va ouvrir des nouvelles perspectives pour les étudiants.
Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Avec le micro, si vous voulez.
Enseigner la RSE. Alors, RSE, Anne-Sophie, c'est responsabilité sociétale et environnementale. Donc, peut-être que déjà, il faut l'enseigner en première année de faculté de sciences économiques.
La question est complète. Alors, en plus, la question est complète. Puis, moi qui suis à la retraite, j'aurais dit après tout, c'est plus mon problème.
Bonne réponse.
Mais j'ai pas droit de m'en servir. C'est pour les étudiants. Mais la question du big data, je crois que c'est effectivement quelque chose de très important. Enfin, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a déjà fait évoluer, parce que c'est vrai quand on regarde la façon dont la recherche en économie a pu évoluer avec l'accès aux données. Et ça ne peut que s'amplifier. Et c'est quelque chose qui va se généraliser au-delà. Alors, c'est vrai pour la recherche en économie, mais c'est vrai effectivement dans tous les domaines de la vie d'entreprise, de la vie sociale, où on peut se dire que jusqu'où est-ce. Alors, avec une dimension technique, arriver à maîtriser tous les outils d'analyse de données, etc., mais aussi une dimension qui peut être une dimension extra-économique, qui peut avoir une dimension politique, une dimension humaine ou autre, parce que utiliser l'intelligence artificielle avec le big data, etc., oui, mais jusqu'où? Et je dirais que dans l'assurance, vous êtes bien placé pour savoir que qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où est-ce qu'on peut aller utiliser les données pour aller prévoir, donner la probabilité que telle ou telle personne contracte tel ou tel type de maladie, et à ce moment-là, comment est-ce que je vais le tarifer? Est-ce que je vais m'amuser à tarifer les personnes individuellement parce que j'ai calculé que celui-ci a une chance de cancer qui est le double de l'autre? on peut arriver à quelque chose qui devient très intrusif. Et je dirais que là, je pense qu'il y a, sur l'aspect moral, déontologique, il y a des implications qui vont au-delà de l'économie. Mais ça, bon, ce n'est pas vraiment le débat. Mais à la limite, ça devient le débat, c'est-à-dire qu'il faut à la fois donner l'outil technique aux étudiants dans leur formation pour ça, mais il faut peut-être aussi leur donner le côté déontologique pour qu'ils soient capables d'avoir un certain regard sur justement l'utilisation de ces données. Je crois que et on rejoint à ce moment-là le côté aussi responsabilité sociale et environnementale. Là aussi, il y a le côté de donner une certaine vision aux gens pour qu'ils prennent en compte ces choses-là. Alors, d'après ce que j'ai compris dans la question, il y avait en même temps le fait que le développement de la prise en compte des responsabilités sociales et environnementales va modifier progressivement les comportements des décideurs. Et donc, il va falloir intégrer ça dans les modèles prévisionnels parce qu'effectivement, déjà, on le fait quand on parle de la finance verte, c'est déjà essayer de voir comment est-ce que le côté environnemental impacte l'évolution des cours financiers d'un certain nombre de choses. Est-ce que les entreprises qui font qui ont un souci environnemental plus prononcé, est-ce qu'elles performent moins bien, est-ce qu'elles performent mieux, est-ce que les investisseurs ont tendance à favoriser ces entreprises-là, à se dire après tout, ils sont bons, donc ceux-là, on va les aider, on va aller investir davantage, et à la limite, ils performent mieux, ou est-ce qu'on considère qu'au contraire, ah ben oui, mais ils vont avoir des coûts supplémentaires, donc on est prudent, et puis on va pas. Donc effectivement, il faut prendre ça en compte. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Et alors, avec une dimension en plus, c'est que dans tout ce qui est RSE, c'est qu'il y a une dimension réglementaire. Parce qu'il y a effectivement la prise de conscience des gens, mais il y a aussi la vitesse à laquelle l'État va imposer un certain nombre de réglementations et comment est-ce que ça va s'intégrer. Donc là, c'est une incertitude à prendre en compte en plus. Mais effectivement, je pense qu'il y a des tas de pistes de réflexion et qui ne peuvent que donner du travail à des économistes derrière. Donc, en termes de métier, je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a du travail derrière pour les économistes. Hein, mais...
Ça suscite d'autres réflexions ? Non ? Moi, j'aimerais bien entendre les étudiants, quand même. Je suis prêt à vous payer pour que vous parliez. Non, quand même pas. Non, il y a un volontaire sur ce qui peut être intéressant, on en a discuté en préparant cette petite conférence, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on part sur des études comme ça, quelle image on a volontaire, on est preneur. Formidable. C'est gentil. Je vous laisse vous présenter.
Alors moi je suis en deuxième année d'économie, donc un peu le même début de parcours que Monsieur Aubin. J'ai fait un bac S, j'ai mes clémates, les sciences, c'était non. Du coup je me suis dit j'aime bien les questions de politique, d'économique et les mathématiques. Donc j'ai dit, je vais tenter les sciences économiques, je vais voir si ça me plaît, si ça me plaît tant mieux, si ça me plaît pas tant pis, et ça me plaît, donc j'y reste. Économique fondamentale, et sur la question, tout à l'heure vous parlez des sciences économiques fondamentales et appliquées, c'est sûr que les sciences fondamentales, je pense, si on en parle tous entre étudiants, c'est ce qui, on va se dire, c'est le plus compliqué, c'est ce qui va moins nous plaire, parce qu'on va pas comprendre avec le monde d'aujourd'hui, quand on travaille sur Adam Smith par exemple, en 2022, on va se dire, bon bah voilà, c'est un peu loin. Est-ce que c'est les mêmes idées qu'on avait à l'époque que maintenant ? Mais on sait pertinemment que le fondamental, on doit y passer pour faire des sciences appliquées. Mais moi, je sais que personnellement, bah, je fais du fondamental pour faire plus tard de l'appliqué et qu'on ne peut pas commencer à faire de l'appliqué sans fondamental. Mais ça me paraît logique, mais je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde.
Juste un mot, est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire plus tard spécifiquement ?
Alors pour l'instant, j'ai deux idées, soit travailler en politique économique à l'étranger, en ambassade, des choses comme ça, ou alors en tout ce qui est dans le développement économique international, donc travailler dans des ONG ou l'ONU ou des choses comme ça.
Parfait, merci beaucoup. D'autres volontaires ou... Non ? Je me retourne parce qu'il y a du monde derrière aussi. Ça vous inspire quoi, la réflexion de l'étudiant et ses motivations aussi ?
Motivation, effectivement, ça fait partie d'un, c'est un champ de motivation qu'on retrouve souvent chez les étudiants. Enfin, le côté aller vers des politiques économiques ou envie des problèmes de développement, effectivement, on a quand même un certain nombre d'étudiants qui ont pris ce type d'orientation, même si c'est peut-être pas majoritaire parce que statistiquement, il y en a plus qui ensuite arrivent, vont vers le monde de l'entreprise, mais C'est-à-dire, si on aime le côté... Enfin, ceux qui veulent rester dans l'économie un petit peu plus générale, le côté modélisation économie appliquée, études économiques, vont en général plus aller vers ces choses-là, parce que c'est là qu'on a l'occasion d'utiliser l'économie, les outils économiques, pour faire des études appliquées sur une échelle macroéconomique. Dans l'entreprise, on va être beaucoup plus sur des choses un peu plus concrètes et autres. Donc, c'est vrai que c'est deux grandes orientations qui peuvent se... qu'on va retrouver, notamment sur ceux qui vont aller en gestion, qui vont être plus appliqués. Donc, alors après, sur la réflexion, enfin, sur le côté économie fondamentale, théorie fondamentale ou appliquée, économie fondamentale, économie appliquée, bon, c'est vrai que c'est toujours mais on peut trouver, on peut prendre goût aussi à l'économie théorique fondamentale. Il y a des choses... Et si elle est fondamentale, le mot veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que, de toutes les façons, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, c'est la phrase de Poincaré, on fait une science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres, mais un tas de pierres n'a jamais fait une maison. Donc, il faut avoir effectivement les éléments de structure, et c'est la recherche fondamentale qui donne ça, parce que faire de la recherche appliquée, c'est bien, mais il y a toujours un élément quand même de théorie qui va être derrière. Sans ça... je pense que même Liliane ne peut pas me contredire. Il faut qu'il y ait un lien théorique pour pouvoir... Et le lien théorique, c'est quand même la recherche fondamentale. Alors après, effectivement, il y a ceux qui font que de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on raffine la recherche fondamentale, et donc c'est vrai, c'est l'outil mathématique, c'est le modèle purement théorique, de plus en plus sophistiqué. Mais bon, mais ça fait partie du développement de la science. C'est vrai que la science se développe dans toutes les directions, mais c'est vrai en sciences économiques, c'est vrai dans d'autres domaines. Enfin, en physique, physique nucléaire, les modèles de mécanique quantique, c'est pas. Il y a toute une partie, c'est de la théorie, la théorie pure, qui veut déboucher sur des applications, mais il y a de la théorie pure derrière. Et il en faut pour développer une science, quelle qu'elle soit. Enfin, il me semble. Mais je comprends bien que c'est plus ardu au début, c'est vrai que...
Moi, je ne peux inciter que les étudiants aussi qui fassent de la science fondamentale, économie fondamentale ou appliquée, à venir quand même passer un petit peu de temps dans une entreprise, quelle qu'elle soit, parce qu'ils découvriront aussi un autre monde, peut-être qu'ils ne vivront pas après. Vous souhaitez aller dans une organisation internationale, moi je trouve que c'est très très bien. Je trouve que c'est bien aussi de voir comment ça se passe ailleurs. Et je trouve qu'il y a aussi des opportunités aujourd'hui que les économistes n'avaient pas. Moi, quand j'étais en faculté, je n'avais pas possibilité de faire d'alternance. Et nous, par exemple, à la Mutuelle de Poitiers, on a ouvert 14 postes en alternance, c'est beaucoup. Et c'est des opportunités extrêmement intéressantes. Moi, je vous incite à faire un peu d'alternance. Vous verrez, vous découvrirez un autre univers. Ça vous permettra d'ailleurs de vous ouvrir aussi et d'appréhender d'autres aspects de l'économie. Et je pense qu'ils seront très, très intéressants si vous voulez faire en plus du développement, parce que vous verrez très concrètement la relation que peuvent avoir les acteurs économiques entre eux et les personnes entre elles. Je pense que c'est important aussi de s'ouvrir à ce monde de l'entreprise.
En tout cas, merci beaucoup pour le témoignage. Il nous reste encore un petit moment à passer ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est toujours enrichissant de pouvoir échanger les uns les autres. Oui, bonsoir.
Bonsoir, madame, monsieur. Je ne suis pas du tout du domaine, mais ce que je vois, c'est que de plus en plus, l'outil informatique vient changer nos vies. À la fois dans les analyses comportementales qu'il peut apporter au travers de l'intelligence artificielle, au travers des aspects multifactoriels qu'on a autour de nous. Et l'intelligence artificielle permet finalement de tenir compte de plus en plus de comportements très complexes en tenant compte d'énormément de facteurs. Ça impacte aussi notre vision, la manière dont on va devoir interpréter les résultats. Et aujourd'hui, le métier d'économiste est-il encore un métier qui s'appuie essentiellement sur des approches fondamentales, donc analytiques, ou alors qui est de plus en plus comportementaliste sur des modèles numériques dont on voit qu'ils fonctionnent et où on dit, bon voilà, ça fonctionne et il va falloir après qu'on trouve le modèle qui colle.
Merci beaucoup.
Lorsqu'on interprète des résultats, quand même, on se base sur des modèles qui existent, c'est-à-dire qu'on part des théories, et si on voit que lorsqu'on a des résultats, on est un peu trop éloigné des théories, on essaie de réfléchir aux hypothèses qui ne sont plus vérifiées et comment, en levant cette hypothèse, ça peut changer nos modèles. Mais a priori, on commence par se baser sur des choses qui existent déjà. En revanche, il se peut que certaines hypothèses ne soient plus vérifiées. Et dans ce cas, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comment évolue le modèle une fois que vous changez cette hypothèse-là. Mais je ne pense pas qu'on crée des modèles ex post.
Alors, je pense pas. Il y a effectivement toujours. Enfin, c'est toujours une espèce d'aller-retour entre la théorie et puis les faits, entre les. Alors, avec effectivement, je crois que le développement. Alors, c'est lié, à l'informatique, au développement de tous les outils de calcul, etc. Il me semble qu'on a eu tendance, peut-être, à pousser dans les deux directions en parallèle. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une branche de l'économie qui est partie sur l'analyse de données. Et il y a effectivement certains travaux économétriques qui utilisent des quantités de données et qui vont rechercher tout un tas de covariances, de corrélations, de liens entre des variables pour essayer de faire émerger des choses. Alors, avec toujours une idée quand même derrière la tête qui est une relation théorique, on va essayer quand même de trouver des relations, ou en tout cas, si on trouve des relations empiriques, on va les interroger avec une analyse théorique, mais il y a effectivement une sophistication qui va se faire sur le traitement de la donnée. Donc ça, c'est une voie de développement. Et puis, il y a aussi une voie de développement qui est apparue sur l'aspect purement théorique, avec la modélisation purement théorique, où on fait des modèles d'équilibre général, calculables, stochastiques, etc., où vous avez des trucs qui sont énormes, qu'on ne peut traiter d'ailleurs qu'avec des outils de calcul informatique, parce qu'on ne peut pas les faire. Ces calculs, on ne peut pas faire la main. Et on va faire des simulations, et on va essayer de voir si ces simulations nous donnent quelque chose qui, ma foi, correspond en gros. Donc, on a un gros travail de calcul théorique avec des outils pour déboucher sur des résultats qui sont des résultats simulés. Et on va se dire, est-ce que ça correspond à plus ou moins à la réalité? Et puis, à côté de ça, il y a ceux qui vont avoir un gros travail sur la donnée observée et en se disant, est-ce que ce que j'arrive à extraire comme résultat statistique, est-ce que ça correspond en gros à ce qu'il y avait au niveau théorique? Et donc je crois que les deux choses se sont développées, enfin il me semble que dans la littérature, les deux choses se sont développées un peu en parallèle, et ça peut-être en partie parce qu'il y a le besoin de publier, et pour publier, il faut faire des choses qui soient sophistiquées, qui soient pointues, et donc on va plus loin. Et chacun se spécialise sur son truc. Mais là encore, je ne suis pas sûr que ce soit une spécialité réservée à la science économique. Je pense que dans d'autres domaines scientifiques, on a ce genre de choses. On a des outils pour aller plus loin dans les travaux sur la donnée appliquée. Et puis, même en parallèle, on a des travaux où on va aller plus loin sur le côté théorique. Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est effectivement le croisement entre les deux. Parce que c'est vrai que si on ne fait que de la modélisation théorique pure, en oubliant de regarder le côté réel, on va faire n'importe quoi. Et si on fait que du traitement de données en cherchant des corrélations dans tous les sens, sans chercher une logique derrière, on va faire du n'importe quoi aussi. Hein. C'est l'histoire de la longueur des cheveux et puis du risque de chômage. Quoi. Pour revenir sur la question, je pense qu'effectivement, le développement de l'informatique, des moyens, a permis de développer les deux. Ce qu'il ne faut pas, c'est oublier de faire l'interface entre les deux.
Oui, c'est ça. Je crois que peut-être que je suis un peu économiste, alors, dans le sens où...
Ah, enfin, ça y est, elle fait son coming out, elle est économiste ce soir.
Dans le sens où on peut faire des choses très automatisées, où vous avez des techniques, où vous allez avoir un modèle très joli, où tout va bien marcher, vous avez tous les bons tests. Mais quand vous essayez de l'interpréter... C'est bizarre, mais rien ne fonctionne. Mais vous n'avez aucune interprétation. Donc, vous pouvez faire des modèles en intelligence artificielle qui sont super bien, qui manipulent vos données, mais vous ne pouvez absolument pas les interpréter. Et c'est très rigolo parce que les étudiants adorent ça, parce que c'est facile, parce que c'est une méthode, parce que, pourtant, tout marche bien. Oui, tout marche bien, mais essaie de raconter une histoire, tu n'y arriveras pas. Donc, si on n'arrive pas à raconter une histoire dans le sens où si on n'arrive pas à expliquer nos résultats avec une logique, avec notre environnement, avec la manière dont on vit, ça ne marchera pas. Et du coup, peut-être que, alors, comme je disais, je suis un peu économiste parce que j'arrive à interpréter et un résultat où vous avez, je me souviendrai toujours, un étudiant qui nous fournit un rapport où il essaie d'expliquer la demande de quelque chose et il a fait une automatisation de ses résultats et il n'y a pas de prix. Et je lui dis, mais la demande ne dépend pas du prix. Il me dit, oh non, madame, ce n'est pas ressorti. Ah oui, ce n'est pas ressorti, mais il n'y a aucune réflexion. Donc, vous pouvez faire de l'intelligence artificielle qui va vous donner un joli modèle, mais qui ne va pas réfléchir pour vous. Et je crois que l'économiste, alors...
Ça ne dépend pas du prix, finalement, la demande, vous savez pas.
Ça peut, ça.
Oui, sûrement. Mais OK, alors, OK. C'est peut-être. Imaginons que ça ne dépende pas du prix.
Ça, c'est une découverte.
Mais, donc, ça ne dépend pas du prix. Mais lorsque je pose la question à l'étudiant et je lui dis, et alors, il n'y a pas le prix, il ne faut pas qu'il me réponde, mais madame, ça ne sort pas. Il faut qu'il se dise. Et quand je lui dis, il aurait fallu au moins mettre le prix dans ton modèle pour montrer qu'il n'y a pas d'effet, il m'a dit, mais madame, ça, c'est de la bidouille. Donc, ça veut dire que, clairement, il y avait des choses qui n'étaient pas passées.
Merci pour cette réponse. Allez, il nous reste encore quelques minutes si vous voulez intervenir, un témoignage ou une question ou une réflexion suite à ce qu'on vient de se dire. Oui ? Ah, oh, super ! Vers la fin, en général, on est au taquet. Bonsoir.
Bonsoir et merci. Dans un souci d'avoir des modèles avec de plus en plus de variables et de facteurs à prendre en compte, et toute la société qui bouge assez rapidement actuellement, est-ce que il existe, je ne suis pas du tout du domaine, donc est-ce qu'il existe déjà peut-être où on commence à entrevoir des croisements entre les sciences économiques et d'autres sciences qui pourraient donner beaucoup de réponses sur certains sujets, que ce soit d'un côté ou de l'autre? Pas forcément, mais enfin, moi par exemple je suis plutôt du côté sciences dures comme on dit, mais comme il y a eu dans la science, dans ces sciences-là des rapprochements, la biochimie, etc., il serait peut-être intéressant d'avoir des nouvelles approches aussi dans d'autres sciences, mais comme je dis, j'y connais rien. Vous avez certainement mieux la réponse que moi pour me l'expliquer. Voilà, c'est...
Merci beaucoup.
Bien sûr. Alors, pour revenir aux questions du chômage, par exemple, je pense que lorsque moi j'ai fait ma thèse, il aurait été intéressant de travailler avec des sociologues qui, eux, ont des études de terrain. Le problème, c'est que c'est un peu comme les hétérodoxes et les orthodoxes en économie. On a un peu de mal à se parler. Alors, je crois que les choses sont en train de changer, les sociologues ne comprennent pas qu'on n'ait pas de contact avec l'humain quand on travaille sur des données. Et nous, économistes, on se dit, mais qu'est-ce que tu peux faire une théorie avec, après avoir interrogé 10 personnes, tu ne peux pas généraliser. Mais je crois que... On vient un peu à ça et on se met à avoir les deux attitudes, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des modèles très généraux qui vont nous permettre d'avoir des approches et des indications, on va voir le sens de certains effets et après on va essayer via des enquêtes quali et peut-être avec des sociologues d'approfondir certains points. Oui.
Si je peux, effectivement, j'ai eu l'expérience... pas sur le même domaine, mais sur en étudiant des sujets de politique économique, des liens avec des gens qui font des sciences politiques. Et là aussi, effectivement, on peut avoir, par exemple, j'ai travaillé pas mal sur essayer de développer une analyse économique de la prise de décision politique, c'est-à-dire essayer de comprendre comment les politiques prennent leurs décisions, alors en appliquant ça à l'économie. Mais c'est vrai qu'il y avait des interdépendances et c'est vrai qu'il est arrivé de discuter avec des gens qui font des sciences politiques. Alors, le problème qu'il y a souvent, c'est il y a une question de méthodologie et ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est vrai que souvent on n'a pas la même méthodologie et donc c'est là où on peut discuter, on peut échanger, construire un truc ensemble. C'est pas évident parce qu'on part sur des méthodologies différentes, donc on peut essayer d'intégrer, enfin l'économiste peut dire dans mon modèle je vais intégrer des éléments, des variables qui sont des variables politiques parce que le politique m'a dit ça c'est intéressant, ça c'est des choses qu'il faudrait prendre, donc je vais dire oui je les intègre, mais faire un espèce de modèle de croisé entre les deux, c'est souvent pour des questions de méthodologie, c'est difficile à faire. Mais alors, il y a la même chose en histoire économique. Quand on fait de l'histoire économique, en tant qu'économiste, ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'essayer de prendre une théorie économique et de me dire, voilà, je construis, j'essaie de raconter une histoire sur un certain nombre, pour expliquer certaines évolutions institutionnelles ou autres, mais dans une logique économique, donc avec mon modèle économique. Là où l'historien va être intéressant, c'est que justement, c'est que lui va pouvoir me dire, mais oui, mais attention, ça marche bien dans telle et telle circonstance. Il va me donner des exemples historiques de choses qui correspondent bien. Puis à côté, il peut me dire, oui, mais il y a tel autre exemple historique qui ne fonctionne pas. Et c'est là où l'échange est intéressant parce qu'il y a un regard croisé. En revanche, le côté vraiment faire une symbiose des deux dans une modélisation, j'y crois moins parce qu'il y a une démarche et une méthodologie qui est différente. Mais le regard croisé, effectivement, je crois que c'est utile et c'est même enrichissant pour les deux.
Ouais, il y a une complémentarité qui est intéressante. Ouais, bien sûr.
Merci.
Toujours moi qui tiens.
Non, c'est plus une réflexion sur ce qui ferait la spécificité en fait de l'économie par rapport à d'autres sciences sociales, ou même par rapport aux sciences. Hein, moi, j'ai une idée, un avis là-dessus, mais je vais échanger avec vous par rapport à ça. Et c'est ce qui fait que l'économiste a aussi peut-être un peu mauvaise presse. C'est une particularité, c'est que c'est une science performative. Le discours économique va modifier l'économie. Il n'y a pas de frontière entre l'économiste, l'économie et son objet. En gros, l'historien, quand il étudie l'histoire, il ne va pas modifier l'histoire. Elle est figée. L'astrophysicien, quand il étudie... Non, je suis d'accord, c'est vrai.
Ça devient compliqué. Parce
Mais l'astrophysicien, a priori, il ne va pas modifier ce qui a régi l'équilibre des arts. Mais l'économiste, parce qu'on attend de lui, c'est un peu comme on attend de lui qu'il soit un peu prescripteur. Oui, il doit à la fois comprendre et prescrire pour agir. C'est vraiment c'est pour ça qu'il a toujours été très proche des gouvernants, très proche des décideurs, très proche des... Vous verrez, les rois ont toujours entourés des économistes. et peut-être c'est ce qui met parfois mal à l'aise. C'est comme j'ai l'analogie, on reproche aux médecins les maladies. Les médecins créeraient les maladies. On n'imagine pas ça pour les médecins. Et pourtant, on l'imagine facilement pour les économistes. On en a beaucoup parlé, vous l'avez évoqué, hein. Dans la crise de 2008, etc. Cette mauvaise presse, en fait, elle colle quand même à la... elle polarise un peu les débats, j'ai l'impression, et elle fait, comme vous l'avez évoqué, hein, pour être entendu, il faut avoir des certitudes. Si on arrive on n'est pas certain, ça dépend de ci, ça dépend de ça, ben, on ne vous prête pas l'oreille. En tout cas, les décideurs moins, et encore moins évidemment les journalistes, ça c'est clair. Mais voilà, donc il y a une spécificité, j'ai l'impression, de l'économie qui est que le discours qui tient modifie l'économie elle-même, ce qui n'est pas évident avec les autres sciences, à mon avis.
Oui, alors il y a deux questions complexes, réflexion est complexe, et puis moi je la vois à deux niveaux. Il y a d'abord effectivement le côté. Les deux rôles de l'économiste, il y a l'économiste scientifique qui va chercher à expliquer, à comprendre comment ça fonctionne, et puis il y a l'économiste comme conseiller, celui qui va aider à prendre des décisions. Donc c'est effectivement deux choses différentes et qu'on va apprécier de façon différente. Alors, l'économiste qui est dans son rôle de scientifique, pour moi, il peut avoir une certaine forme d'objectivité, c'est-à-dire essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'il observe. Alors effectivement, une fois qu'il aura trouvé quelque chose, ça va peut-être avoir un effet sur ce qu'il a observé. C'est la fameuse histoire, quand je raconte mes étudiants, je prends toujours l'exemple des modèles chartistes en finance, c'est-à-dire c'est des modèles où on vous dit, on retrouve une figure géométrique dans l'évolution des cours boursiers, et puis on vous dit, à partir de ça, je vais pouvoir prévoir. Alors je dis effectivement, mais si vous avez une prévision qui est fiable à 100%, et si cette prévision fiable à 100% vous dit aujourd'hui le cours il est à 100 et dans 8 jours il sera à 110, si c'est fiable à 100%, tout le monde va acheter aujourd'hui à 100 et automatiquement il ne sera plus à 100, il sera à 110 dès aujourd'hui. Donc effectivement que si on découvre quelque chose dans les sciences, alors c'est vrai en économie mais on pourrait dire c'est vrai dans toutes les sciences sociales, on travaille sur l'humain et l'humain va se modifier. Alors ça c'est un aspect des choses. Je ne sais pas si c'est une spécificité. Maintenant que je suis à la retraite, parfois j'essaie de lire des trucs qui sont plus de l'économie. Alors là, j'ai essayé de lire des trucs sur la mécanique quantique parce que c'est des machins qui c'est des trucs qui m'ont toujours attiré. Et quand je lis certains trucs en mécanique quantique, je me dis finalement, ils ont peut-être parfois les mêmes problèmes que nous, parce que l'histoire du chat dans sa boîte, là où on ne sait pas, il est mort ou il est vivant. Et une fois qu'on aura ouvert, il sera soit mort, soit vivant, mais il ne sera pas les deux à la fois. Et donc, il y a des questions dans philosophie des sciences qui reçoivent les mêmes parfois dans les sciences dures que ce qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être pas une spécificité, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus prégnant quand on est dans les sciences sociales et en sciences économiques, comme ça. Donc. Là-dessus, effectivement, c'est un problème. Mais après, je dirais que dans la démarche de l'économiste, si dans sa démarche de conseiller, si l'économiste se comporte de façon comme un scientifique, c'est pas lui qui a à dire il faut lutter contre le chômage ou il faut lutter contre l'inflation. Lui, son rôle, c'est de dire si vous voulez réduire le chômage dans un contexte donné, voilà ce qu'il faudrait faire. Et voilà quelles seront les conséquences. Conséquences en termes de chômage, en termes d'inégalité ou en termes d'autres choses. Et si vous voulez lutter contre l'inflation, voilà ce qu'il faudrait faire. Alors, en prenant toutes les précautions, parce que nous, on ne connaît pas parfaitement les mécanismes, mais il a à donner les choix possibles, expliquer les scénarios et puis voir ce qui pourrait se passer en essayant de voir les fameuses questions qu'on pose. Je ne sais pas si on fait toujours ça, mais en début de cours d'analyse économique, je disais aux étudiants, il y a toujours trois questions qu'il faut poser. Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour qui et comment. Donc, voilà, le conseiller, il faut dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, pour qui vous voulez qu'on le fasse et comment vous voulez qu'on le fasse. Et je vais essayer de répondre à tout ça. Et une fois que je vous ai mis les réponses sur la table, c'est au décideur, le politique, le chef d'entreprise ou autre, de prendre sa décision. L'économiste, normalement, ce n'est pas à lui de dire, il y a qu'à, faut qu'on. Non, lui, il dit, voilà comment on peut faire. Alors, c'est vrai que, bien souvent, le raccourci se fait, et entre la proposition normative et puis la proposition positive, c'est-à-dire entre voilà comment ça marche et voilà ce qu'il faut faire, parfois on fait un raccourci, et les économistes eux-mêmes ont parfois tendance à faire le raccourci dans certaines prises de position. Et là, effectivement, on retombe sur, effectivement, on sort de l'aspect de la position scientifique et on tombe sur des prises de position politiques, voire des prises de position idéologiques, qui peuvent effectivement, à ce moment-là, contribuer à donner une mauvaise image ou une image biaisée de l'économiste. Et c'est vrai que, parce que les économistes sont aussi des hommes, ils ont aussi leurs affinités idéologiques propres, et il n'est pas toujours facile de faire la part des choses. Hein. Je dirais que, mais si on était honnête, il faudrait le faire à chaque fois en disant, voilà, il y a des. Et par rapport au débat sur la théorie, il y a des modèles théoriques. On peut faire des modèles purement théoriques de marché, de libre marché, en montrant que dans un monde idéalisé, le marché, c'est l'idéal, tout fonctionne bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On peut faire exactement le symétrique avec des modèles théoriques de planification totalement centralisée, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, on sait que le planificateur central, bienveillant, omniscient, etc., ça n'existe pas. Et on sait que le marché parfait, etc., ça n'existe pas non plus. Donc, on est dans une réalité où il faut toujours faire de l'arbitrage, faire du partage. Mais après, c'est la spécificité. Enfin, je reviens toujours à la définition de l'économie par Robbins. Hein, c'est la science des choix. Et tout à l'heure, au début de la remarque, il y avait une spécificité sur l'économie. Par rapport aux sciences dures, il y a effectivement peut-être ce problème de relation avec l'objet d'étude qui est en même temps l'humain et donc qui peut bouger. Mais par rapport aux autres sciences sociales, je crois que dans les définitions de Lionel Robbins, il insiste en disant ce qui fait la spécificité de l'approche économique, moi je trouve ça assez sympathique comme façon de réduire les choses, c'est la notion de rareté. L'économiste, il s'intéresse à la société, aux relations sociales, mais à travers l'idée de rareté. S'il y a rareté d'une manière ou d'une autre, il va y avoir nécessité de faire des choix, et donc l'économiste, ça l'intéresse. S'il n'y a pas de rareté, l'économiste, il s'en fiche, parce que franchement, il y en a assez pour tout le monde, donc ce n'est plus la peine de faire de choix. Et donc c'est là où... En sciences politiques, ce n'est pas tellement cette notion-là qui va être au cœur, c'est plutôt la notion de pouvoir qui va être la notion clé pour intervenir. Comment est-ce que, dans les relations entre les différents individus, puisqu'on est toujours dans les sciences sociales, comment dans ces relations s'établit le pouvoir, la relation de pouvoir entre les uns et les autres. Et c'est plutôt ça qui va être l'élément clé pour appréhender. Enfin, il me semble que c'est
une rareté. Christian, donc il y a un grand avenir pour les économistes parce qu'il y a de plus en plus de biens qui sont rares. Donc il y aura de plus en plus d'économies. C'est vrai qu'on a l'économie de l'eau maintenant.
Mais ça a toujours été. Il y a toujours la rareté a toujours été. Enfin, tout à l'heure, qui c'est qui parlait d'Adam Smith comme ça, mais vous avez ça chez Adam Smith. Hein, la rareté, c'est déjà au cœur. Le temps, le temps. La première rareté, c'est le temps. Oui, oui. C'est la première rareté, le temps.
Oui. Alors, en parlant du temps, justement, il nous reste quelques petites minutes. Merci pour la transition. Oui. C'est moi qui tiens.
Finalement, vous disiez que les économistes, ils n'avaient pas le laboratoire comme les scientifiques, mais vous avez une sorte de laboratoire, c'est les différents pays et les différentes mesures qu'ils prennent. Les politiques, quand ils se réfèrent rarement à des modèles historiques, ils disent, regardez, dans tel pays, ils ont fait comme ça. Ben, nous, on va essayer de faire pareil. Ou alors, dans tel et tel pays, ou au niveau européen, on est les seuls à ne pas faire comme ça. Donc, c'est quelque part regarder le passé immédiat dans d'autres pays. Donc, est-ce que ce n'est pas une sorte de laboratoire? Est-ce que ce n'est pas la bonne méthode, quelque part, meilleure que ces modèles qu'on connaît déjà, plutôt que d'inventer de nouveaux modèles, essayer de regarder ce que font les autres pays?
Oui, effectivement, enfin, les économistes font ça. Enfin, les analyses de comparaison internationale, c'est des choses qu'on fait pour essayer de tester effectivement la validité. Enfin, quand vous parlez modèle, vous dites modèle d'organisation de la société. Quand vous dites on peut regarder un modèle plutôt que de créer un modèle.
Alors, les différents modèles, régimes politiques, et puis aussi les décisions prises par tel ou tel dirigeant, décisions sociales, économiques, monétaires.
Oui, non, mais effectivement, on peut imaginer de faire ça. Mais je dirais, l'économiste, lui, dans sa démarche, pour essayer de comprendre comment ça va fonctionner, ce qui va l'intéresser, c'est d'utiliser ces différentes expériences pour tester la pertinence de son modèle théorique. C'est-à-dire, j'ai un schéma d'enchaînement de théorique. Est-ce qu'il est pertinent ou pas? Je peux essayer de voir, justement, à travers différentes expériences. Alors, avec une des difficultés, c'est que vos pays, ils ont été différents. Donc, même si on raisonne dans une période en histoire, il faut tenir compte des évolutions de l'environnement historique. Mais si on raisonne à un instant T en faisant des comparaisons internationales, il y a quand même des spécificités. Mais effectivement, il faut les intégrer et on essaie de comprendre. Il y a des études qui se font là-dessus. Alors après, mais souvent, le problème, c'est que c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Bien souvent, c'est des problèmes d'arbitrage qui vont apparaître. Ce qui fait qu'on va s'apercevoir que dans un pays, il y a quelque chose qui a bien fonctionné. Mais ça a bien fonctionné parce qu'on était dans un contexte différent de celui qu'on a. Et on ne peut pas vouloir transposer comme ça, simplement en disant « mais ça marche bien ici, donc pourquoi on ne fait pas la même chose ?» Ça peut être dangereux. Donc il faut être très prudent quand on fait ça pour essayer de prendre en compte tous les critères avant de prendre la décision. Mais effectivement, c'est une solution, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui se fait déjà. Quand ça marche bien dans plusieurs pays, ça veut dire qu'il y a plus de probabilités pour qu'il y ait un mécanisme vertueux qu'il faudra essayer de reproduire. Mais il faut quand même être très prudent parce qu'il peut y avoir des choses.
Alors, pour répondre en partie à ce que vous avez dit, monsieur, pour m'être intéressé au travail du secteur économique en ambassade, en fait, Bercy, donc le ministère de l'économie, demande aux conseillers économiques qui sont dans chaque ambassade de travailler sur un sujet. Par exemple, si la France veut mettre une nouvelle politique de transport, elle va demander aux ambassades de travailler sur comment est-ce qu'au Portugal ils ont fait, comment est-ce qu'en Angleterre ils ont fait, comment est-ce qu'en Allemagne ils ont fait. Et après, avec l'analyse des économistes dans chaque pays, à Bercy, pour la prise de décision, ils vont regarder en fonction de ce qu'ont fait tous les pays pour prendre une décision. Mais c'est souvent avec des pays qui ressemblent, ce que me disait un conseiller, à la France. Ils ne peuvent pas comparer, par exemple, l'Inde avec la France. Ils prennent souvent énormément de pays occidentaux pour choisir les politiques économiques françaises.
Une dernière question, et c'est plus en rapport avec la microéconomie, les statistiques. On a envie, j'imagine, d'avoir un maximum de données pour essayer de trouver justement des corrélations. Et la protection des données personnelles, elle va complètement à l'encontre de ça, non? Est-ce qu'on n'a pas envie des fois de faire sauter les barrières, quitte à dépersonnaliser les données pour essayer de trouver ces corrélations, quitte à dire ensuite, OK, mais on n'a pas le droit de les utiliser, mais au moins on aura compris la corrélation.
Alors, dépersonnaliser les données, je ne sais pas, mais il y a des données dont on aurait vraiment envie d'avoir, et bon, en France, on ne peut pas, mais par exemple, pour essayer de montrer tout ce qui est politique ou effet des étrangers ou des personnes de couleur, etc. Est-ce que ces gens sont discriminés? Comment ils sont discriminés? On aurait vraiment besoin là de savoir si les gens sont de couleur, mais ça on peut pas, cette information on n'y a pas droit. Donc pour ce genre de choses là, pour mesurer la discrimination par exemple, ce serait super intéressant d'avoir cette information, mais on l'a pas.
Et on va la chercher à l'étranger, c'est pas très moral, mais quelque part.
Aux États-Unis par exemple, eux ils connaissent, ils ont cette information là, mais on peut difficilement, comme on vient de vous le dire, on peut difficilement reporter exactement ce qui se passe aux États-Unis pour dire ben, regardez ce qui va se passer chez nous. Mais il y a des informations dont on aimerait avoir, ouais. Même si on n'a pas le droit. D'ailleurs, maintenant, c'est très compliqué parce que il y a des données juste sur le pays d'origine des parents. On ne peut plus utiliser cette information dans les enquêtes si jamais on publie une étude. Elle existe, mais on n'a plus le droit de l'utiliser. Donc, tout ce qui est origine, on n'a plus le droit d'utiliser. Or, pour mesurer des discriminations, je crois que c'est le seul moyen de le faire. Mais on va pas. Les habitudes de consommation, vous voulez dire? Oui, mais je ne sais pas s'il y a énormément d'études sur la consommation. Oui, il y en a beaucoup. Ouais, d'accord, mais alors les données de consommation ne sont pas dans toutes les enquêtes. Si tu veux. Non, on peut pas.
Des masses de données, ouais.
Je juste intervenir, mais parce qu'en effet, vous avez raison, les données personnelles, c'est un sujet extrêmement important. Et je voudrais juste casser le mythe de l'assureur qui connaît tout sur son assuré. Juste ça. On ne connaît pas tout sur nos assurés. On n'a pas le droit. Vous savez, il y a un règlement qui s'appelle RGPD, protection des données personnelles. Vous savez qu'il y a pas mal de sociétés qui se sont fait épingler parce qu'elles vous pistaient, d'ailleurs, ça, c'est ça. Alors, c'est marrant, c'est étonnant que les gens acceptent finalement de laisser toutes leurs données disponibles pour et qui, vis-à-vis d'un assureur ou un banquier ou l'économiste, ils disent non. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que nous, en tant qu'assureurs, le mythe, c'est de dire ah ben tiens, moi je voudrais tout savoir sur mes assurés et éventuellement et leur proposer le bon produit au bon moment et même au tarif qu'il est prêt à payer parce que ben, vous savez qu'il a plus de biens, il est prêt à payer plus cher. On n'a pas le droit et on fait en sorte justement de l'éviter. Et c'est très compliqué d'ailleurs parce qu'il faut anonymiser nos données. Mais par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on exploite après ces données. Bon, ça nous permet, nous, d'analyser le comportement des assurés, mais dans leur globalité. Comme de la même manière, on n'a pas le droit d'avoir un tarif différent, qu'on soit une femme ou un homme. Voilà, c'est extrêmement réglementé. Mais je pense que les données de consommation, par contre, certains les exploitent. Et ça, c'est autorisé. Après, à vous, économistes, de voir avec qui vous pouvez travailler.
Merci. Merci pour ces échanges, vraiment. Merci beaucoup à nos intervenants qui ont été cash. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée, un bon retour. Bonne soirée.